écoutez Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 22 novembre 1963, c'était il y a 60 ans, Kennedy est assassiné. Au moment où Jackie Kennedy descend de l'avion présidentiel le 22 novembre 1963 à 11h30 sur la piste de l'aéroport de Love Field à Dallas, l'épouse du maire lui offre une magnifique gerbe de roses rouges. « Vous ne pourrez plus prétendre qu'on ne vous aime pas à Dallas. La population semble au contraire toute heureuse de vous voir », affirme l'épouse du gouverneur Connally en se tournant vers John Kennedy, alors que la voiture officielle vire à l'angle de Houston Street pour s'engager dans Elm Street. « J'en ai l'impression, en effet », répondit le président, « ce sont ses dernières paroles ». Au même instant, la première balle l'atteint. Il porte la main à la gorge. Souriante, Jackie salue les quelques personnes groupées de l'autre côté de la rue, puis se retourne sans comprendre ce qui se passe. Le président s'affaisse sur le siège arrière de la Lincoln Continental. Le fil des événements est relaté par le gouverneur Connally. Le président avait des joues ensanglantées. Il ne disait rien. Au même moment, je reçus une balle dans l'épaule. Je savais que la blessure était grave. Je tentais de me lever, mais je retombais dans les bras de ma femme. Et aussitôt, j'entendis un troisième coup de feu, peut-être un quatrième. Je me rendis compte que le président était de nouveau atteint. Il est 12h31 au Texas. Kennedy est mortellement blessé à la tête. Des parcelles de matière cérébrale sont projetées sur la robe de Jackie. Ses bras, les sièges et le tapis de la voiture sont éclaboussés de sang. Elle soutient la tête de son mari tout en faisant des gestes désespérés vers les hommes du Secret Service. Quand retentit le premier coup de feu, elle se trouve 10 mètres après le croisement de Houston Street et d'Elm Street, sur une diagonale qui part de la dernière fenêtre sur la droite au 5e étage de l'immeuble du Texas Book Depository et se termine au bas du pont de l'autoroute. Le chauffeur de la limousine présidentielle gagne l'hôpital Parkland Memorial. Les sirènes hurlent, les policiers braquent leurs fusils et leurs mitraillettes des deux côtés de la route prêts à faire feu. La voiture du vice-président Lyndon Johnson suit. Le cortège s'arrête devant l'entrée des urgences. Les hommes du Secret Service, mitraillettes au poing, se rangent en demi-cercle autour du véhicule. Au bout de 2 longues minutes, les brancardiers arrivent. Ils secourent le gouverneur Connally, puis ils étendent Kennedy sur un brancard. Il est 12h42. Dans le coma, le président est amené dans la trauma room numéro 1. Sa respiration est très faible et les battements du cœur ne sont détectés qu'à l'auscultation. L'interne, Charles James Carrico, l'examine. Il remarque 2 blessures externes, une à la base de la nuque et l'autre plus large, par laquelle a été expulsée la matière cérébrale. Le médecin introduit un tube dans la trachée pour permettre la respiration artificielle. L'air est insufflé dans les poumons du président par une pompe électrique, puis à l'aide de pompes à main pour aller plus vite. Arrive alors le professeur Malcolm Oliver Perry, chef du service de chirurgie, qui constate que l'occiput est écrasé. Le sang coule sur le chariot et inonde le sol. La blessure à la trachée provoque la compression du sang et de l'air dans les poumons. Le professeur Perry décide d'opérer. Il se prépare à pratiquer une trachéotomie au-dessus du niveau de la blessure pour dégager l'asphyxie. La partie antérieure du brancard mobile est surélevée mécaniquement pour faciliter l'afflux de sang vers le cœur. Le professeur Robert McSelland, assistant du chirurgien en chef, remarque des bulles d'air s'échappant de la bouche du patient. Le poumon est perforé. À l'instant où le professeur William Kem Clark, chef du service de neurochirurgie, entre dans la salle de soins, il observe l'absence de pouls. Les pupilles sont dilatées, elles fixent la lumière de l'ampoule du plafond, les yeux sont divergents, le tendon d'Achille n'accuse pas la moindre réflexe, Le professeur Clark entame un massage cardiaque. Dès demain, il presse la poitrine du président selon un rythme régulier. Un assistant flagelle le blessé avec des petites baguettes de bois qui permettent parfois de relancer le cœur, mais l'oscillographe reste immobile. À 13 heures, le décès est officiellement annoncé. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique Un jour, trois livres qui a été préparée comme chaque semaine par Emmanuel. C'est Bernard Lavillier qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous allons écouter un titre de 1980 dans l'album O Gringo, la salsa.
Étaient là, ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà,
c'est une latine, de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, de haut en bas, qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine, qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo. Te quiero mucho et de cafard. Une sauce mêla, c'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée, de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée, comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa,
c'est une latine, de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet en bas, qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Rebaleto. La garde serrée contre mon cœur, malgré la mort qui rôde. Chuchote en quelque chose à son chauffeur. Y'en a marre des palaces, elle s'en va faire des passes pour le panard. Je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir.
C'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. We'll be right back.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire. Un jour, trois livres, en commençant par La femme qui a reconstitué le monde, d'Eva Tinde. C'est aux éditions Gallimard, dans la collection du Monde entier. Voici le roman biographique de Marie Singhammer, danoise, née en 1907 et décédée en 2002. Cette extraordinaire scientifique et non moins extraordinaire femme a sillonné le monde entier pendant 47 ans, souvent seule, parfois accompagnée de ses enfants pour faire progresser la science. Spécialiste des acariens, des mousses dont elle a étudié les caractéristiques et la répartition, elle a prouvé la théorie de la dérive des continents. Ses recherches ont démontré la dispersion des espèces en raison de cette dérive des continents. Le titre de cette biographie lui fait d'ailleurs référence, « Dérive née après l'ancien supercontinent, la Pangée », première femme à participer aux expéditions de Knut Rasmussen au Groenland. Elle écrit sa thèse de doctorat chez elle, sur la table de la cuisine, puis finance elle-même ses travaux, se trouvant trop souvent en butte à l'incompréhension et au sarcasme de la recherche universitaire, avant qu'il ne soit reconnu et largement diffusé. La femme qui a reconstitué le monde, c'est signé Eva Tinde, c'est publié dans la collection du Monde entier chez Gallimard. Le tome 2 de l'Impératrice de Pierre, nous avions déjà dans une précédente chronique présenté le premier tome, c'est signé Christina Sabalioskaite et c'est publié aux éditions Quai Voltaire. Nous suivons la vie de Catherine Ière, née en Livonie sous le nom de Marthe Hélène Skaronskaya le 15 avril 1684 et morte le 17 mai 1727 à Saint-Pétersbourg. Elle est impératrice de Russie de 1725 à 1727. L'épouse du tsar Pierre le Grand, le premier tome s'ouvrait en mai 1727 à 9h du soir. Catherine, au cours des 12 premières heures de son agonie, égrenait les souvenirs de ses jeunes années jusqu'à son mariage secret avec Pierre Ier en 1707. Le deuxième tome reprend le lendemain à 9h du matin, toujours allongé sur son lit de mort, entouré de sa cour, de sa famille et de ses domestiques. L'impératrice poursuit son monologue intérieur en guettant les battements de l'horloge qui la rapproche de sa fin. L'impératrice de Pierre, c'est le tome 2, c'est signé Christina Sabalioskaite et c'est publié aux éditions Quai Voltaire. Et pour terminer cette chronique, Après nous d'Olivier Boncel, c'est publié aux éditions Séguier. Noël 1991 sonne la fin de l'Union soviétique et la fin aussi d'une jeunesse éblouie par mai 68 et les visions collectives du progrès socialiste. C'est cette chute qui est racontée dans ce roman quelque peu introspectif. En 1991, un jeune ingénieur français, Olivier, écume l'Union soviétique finissante, dérive de l'amour à la mer de Barents, de Dniepr à la Neva. Il ausculte des mines, des forêts, des usines, fraye avec des banquiers, des cadres, des contremaîtres. Depuis la chute du mur, la débâcle du communisme se propage sous ses yeux. Émerge alors un continent, bientôt un champ de bataille, pour tous les consultants apparatchiks aventuriers d'Europe et de Russie. Après nous, d'Olivier Boncel, s'est publié aux éditions Séguier. Ainsi s'achève cette chronique et par là même cette émission. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous quitter avec toujours Bernard Lavillier. Nous écoutons Betty, c'était en 1981 dans l'album Nuit d'amour.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale tombant sur les dalles et ce lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune sur le sol allume, visage oublié de celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Rester là, t'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime dans ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté, pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité, pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller. Ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Tu sais, on se retrouvera là, ailleurs, en plein soleil. Oh, 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 oh